Remarque, ce matin, c'est un peu clairsemé. Peut-être. Ou alors, il y en a qui ont oublié qu'il y avait un changement d'horaire. Ah ! Non, mais je remarque que la majorité est là. Largement, même. Donc, que le Seigneur puisse nous bénir encore ce matin à travers ce qu'on va partager. Tout à l'heure, il y avait une image, une photo, avec des pensées. Et tu as rappelé aussi que nos pensées doivent être, dans le travers ce champ, doivent être aussi gardées en Dieu. Et ces fleurs magnifiques, vous les avez vues? Elles étaient vraiment brillantes, d'un jaune éclatant, avec une verdure autour qui faisait ensemble, les faisait remarquer. Nos vies, finalement, doivent être remarquables, frères et sœurs. Doivent être remarquables dans le désert et dans l'obscurité qui règne autour de nous, comme des fleurs qui exhalent un parfum plus ou moins fort. Mais le parfum fort n'est pas toujours le bon parfum. C'est celui qui souvent est discret et qu'on sent, mais qui est une bonne odeur, qui est agréable à Dieu. Et voilà que nos vies puissent être ainsi, chacun d'entre nous, nous puissions être agréables tant au Seigneur, mais aussi agréable à ceux qui nous entourent. Vous avez un parfum de vie et non un parfum de mort. Soyons vivants pour lui. Et on a passé vendredi vraiment une très bonne soirée. Ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage. Passe un bon moment, des bons moments, mais il y a aussi le travail qui peut jouer. Je vois Vincent qui secoue la tête, il n'était pas là, il ne pouvait pas être là, il aurait bien voulu être là. Mais bon, d'autres aussi. Hein, il y a le travail qui conduit. Mais on a passé vraiment une excellente soirée et on a senti vraiment la présence de Dieu. Moi, je l'ai senti. Si vous ne l'avez pas senti, dommage. Parce que Dieu vraiment était au milieu de nous, manifesté d'une façon toute particulière. Et surtout, à un certain moment, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose. Quand on a parlé que Dieu est bon. Il y avait vraiment eu un... J'étais réjoui, encouragé, on est tous boostés un petit peu, et on doit le rester. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Je loue l'Éternel parce qu'il m'a sauvé ». Je loue l'Éternel parce qu'il m'a... On le loue parce qu'il nous a sauvés. D'une certaine manière, c'est une bonne raison de le louer. Une bonne attitude que nous devons avoir les uns les autres. On va lire dans Ésaïe au chapitre 12. Pardon. Sur la couverture de cette Bible que j'ai, c'est marqué « Je crois ». Il y a la croix. Je crois. Et je crois, et je sais... que le Seigneur m'a sauvé et m'a racheté de ma vaine manière de vivre qui était la mienne auparavant et qui a pu être, durant ces plus de 45 ans où je le connais, où il y a pu avoir des hauts et des bas. Mais je sais qu'il a été toujours avec moi et qu'il m'a gardé, il m'a protégé. On va lire le chapitre 12, il est très court. Il y a 6 versets. Tu diras en ce jour-là, on parle du peuple d'Israël, mais il parle aussi de nous ici. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel qui a fait de choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. La puissance de Dieu manifestée, véritablement, il m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Dans le chapitre 6 de ce même livre, il y a Isaïe qui a fait une rencontre particulière avec le Seigneur. dans le chapitre 6 d'Ésaïe. On peut lire le premier verset. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, pardon, oui, et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et sauvé, racheté. Déjà l'expérience du salut accordée à Ésaïe. Une expérience qui va être vécue dans les 800 ans qui ont suivi. Mais déjà, il y avait des hommes qui étaient sauvés, rachetés de la même manière de vivre, parce que Dieu leur avait pardonné leurs péchés et leurs iniquités. Ils étaient des nouvelles créatures. Ésaïe était une nouvelle créature qui a été inspirée de Dieu, qui avait reçu un ministère puissant. Il lui a dit, je te rendrai dur comme du diamant. Comme Jérémie l'a été. Nos vies sont dans la main du Seigneur. Et on doit le louer et l'adorer parce qu'il nous a sauvés. On a vu des belles paroles dans les chants encore ce matin. Il y a des excellentes paroles. Grâce infinie. Toutes ces choses sont extraordinaires. Mais est-ce qu'on les vit? Je me dis, le Seigneur m'interpelle à ce niveau-là en me disant, mais toutes ces choses qu'on chante, est-ce qu'on les vit? Non pas simplement le dimanche, on est bien ensemble, réunis pour pouvoir élever la voix vers lui. Mais ce qui est important, c'est que ce soit tous les jours. Ce n'est pas que le louange, la louange, c'est les paroles qu'on prononce à la gloire de Dieu. C'est les paroles que nous donnons à Dieu. Il m'a sauvé de la mort éternelle, ne l'oublions pas. Il m'a accordé son salut à moi, qui étais un pécheur. À vous, à nous ici. Il accorde le salut. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'ils le reçoivent ce matin. Qu'ils puissent se donner à Christ et abandonner leur ancienne vie pour vivre une vie nouvelle, une vie enrichie, profonde, riche, puissante. Celui qui concerne notre être tout entier. Non pas l'aspect spirituel et puis le corporel, on le laisse de côté. Comme je disais il y a quelques semaines, il y a des gens qui allaient le samedi soir en boîte de nuit, je pensais. Chantaient même. Et puis le dimanche matin, ils se retrouvaient à l'église et ils chantaient. La tête, dimanche matin, était à Dieu. Mais tout le corps, à qui appartenait-il? Aujourd'hui, rappelons-nous, nous sommes sauvés par la mort de Jésus à la croix. Et je le loue pour cela. On peut le louer pour toutes ses œuvres, pour tout ce qu'il nous a donné, pour toutes les bénédictions qu'on reçoit. Mais c'est, l'essentiel, c'est de le louer parce qu'il nous a sauvés. On peut regarder dans l'Apocalypse au chapitre 5. Lorsque, dans ce chapitre, où Christ ouvre le livre, brise les sceaux. Il va lui ouvrir, il ne sait pas encore, mais on lui donne le livre. Et à partir du verset 8, on dit ceci. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont la prière des saints. Nos prières qui montent vers le Seigneur. Et ils chantaient un cantique nouveau. en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé et est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, « Sois la louange !» L'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. La louange. Tous les êtres qui sont sur la terre, qui vivent sur cette terre, les hommes, les femmes d'aujourd'hui, ils sont amenés à louer leur Sauveur et à l'adorer d'une façon merveilleuse. Il m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Il vous a sauvé, c'est lui qui vous a sauvé. Ce n'est pas vos mérites, ce n'est pas vos capacités, ce n'est pas vos dons, c'est simplement le fait que Christ est mort pour vous et a donné sa vie pour nous, que nous sommes sauvés. Quand on regarde autour de nous, quand on parle avec les gens, quelle attitude ont-ils par rapport à Jésus, par rapport à la vie éternelle? Il y a beaucoup de doutes. Certains sont venus dire dans l'église ou dans une église, dire, on ne sait jamais, ça peut marcher. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? Après tout, ce n'est pas mauvais. On peut, puis on verra bien. Je ne sais pas ce qu'ils verront lorsqu'ils vont mourir. La réponse la plus fréquente serait-elle, eh bien, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas fait mal à une mouche. J'ai vécu honnêtement, je n'ai pas triché, je n'ai pas menti. Oh, attention, tricher, hein. Ça ne vous est jamais arrivé pour ceux qui étaient en milieu scolaire d'avoir une petite sèche, comme on dit là. On a tenté parfois d'améliorer ses résultats avec quelque chose qui n'était pas honnête. On a triché, n'est-ce pas? Mais les jeunes ne sont pas là, ils sont partis. Mais on leur dira. J'ai vécu honnêtement, je n'ai pas fait de mal. Dieu est bon. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est une invention d'homme. Hein. Bon. Même à la limite, ils vont dire Dieu, c'est une invention d'homme. Hein. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu n'existait pas, il faudrait le créer. Ouais. C'est lui qui nous a créés. Et non pas nous qui pouvons le créer. Ah, les idoles, oui, on les crée. Combien d'hommes et de femmes se sont prosternés devant des idoles? On cru que ces idoles avaient la puissance. En fait, ils sont morts, et les idoles aussi. L'œuvre, le salut, non. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, dit Paul aux Éphésiens. Salut par grâce. Et je m'en suis emparé quand j'ai compris que c'était non pas par mes capacités que je pourrais vivre éternellement, c'était pour moi une révélation. Pour moi, un éblouissement de comprendre que finalement, quoi que je fasse, quoi que j'essaye de faire, ça ne valait rien. Simplement que c'était la décision de Dieu de me donner la vie éternelle, simplement parce que j'avais reconnu mes erreurs et mes fautes, que j'avais reconnu que j'étais un pécheur comme les autres, et parfois un pécheur qui s'ignorait. Et Dieu me l'a montré. Et cela a été pour moi une révélation, et tout a changé ma vie. Je loue l'Éternel de ce qu'il m'a sauvé. Le message de l'Évangile est un message brûlant. Pour celui qui veut bien entendre. Quand Pierre, dans les Actes des Apôtres, parlait, a dit, les frères disent, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. C'est tout simple. Et souvent, nous avons tendance à compliquer les choses. Avons-nous l'assurance du salut ? Ça, c'est un grand sujet. Avons-nous l'assurance du salut ? Sommes-nous sauvés ? Ou sommes-nous en voie d'être sauvés ? Paul a dit, travaillez à votre salut. C'est quand même con. Mince, le salut. On l'acquiert par le sang de Jésus. Mais travailler à notre salut, c'est-à-dire de garder le salut. De le garder. De ne pas le perdre. De ne pas nous égarer. De ne pas croire que tout est arrivé, que maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. Pour ça qu'on voit par exemple à l'histoire du baptême, que dans des églises multitudinistes, le baptême est considéré comme un sacrement. Une fois qu'on est baptisé, on appartient au peuple de Dieu. Hein, quelques gouttes d'eau, on pourrait dire aussi, hein, parfois même l'immersion. Le baptême ne sauve pas. Il est le témoignage qu'on a reçu Jésus dans notre vie. Et que pour ceux qui aspirent à être baptisés, croyez de tout vos cœurs que ça ne va pas vous donner le salut. Mais que vous êtes déjà, du fait que vous avez renoncé à votre vie passée, vous êtes sauvés, rachetés. Et que le témoignage que vous apportez le jour de votre baptême est témoignage de vie changée. Parce qu'il y a des témoins. Ici sur terre, mais là-haut aussi. Le Seigneur a entendu, entend les voix, entend les paroles qui sont prononcées, et cela c'est quelque chose d'important. On a loué vendredi. On a entendu des belles paroles. Et il ne faut pas qu'on se berce des paroles. Il ne faut pas qu'on reste simplement... Il y a des belles paroles que l'on chante, mais est-ce qu'on les saisit bien ? Est-ce qu'on les comprend ? Est-ce qu'elles sont pleinement rentrées dans notre cœur ou elles sont-elles dans notre intelligence et notre mémoire ? Beaucoup de chants, on les connaît de mémoire hein, aujourd'hui, hein, avec tout le répertoire que nous avons. Dès qu'un mot, un des mots du chant arrive, hop, tout le reste suit. Hein, vous n'avez pas remarqué ? C'est bon comme ça. Hein, à la limite, on peut fermer les yeux. Mais des fois, on se trompe. Le premier mot, c'est le bon, mais après le suivant. Ah, il y a des chants qui commencent tous par le même mot. Attention au suivant. Il a donné, Christ, sa vie pour nous. On le voit dans beaucoup de chants, ce mot. Que ce soit une certitude pour nous, une réalité, et non pas une hypothèse. Un explorateur anglais qui est du 19e siècle, il s'appelle John Franklin, qui est un explorateur du Grand Nord, mort en faisant son expédition en 1847, disait ceci à quelqu'un qui lui posait une question. Ne craignez-vous pas de mourir en partant de l'expédition ? Alors il dit non. Oh. Non. Comment pouvez-vous ne pas appréhender cet inconnu, le Grand Nord et la mort ? Parce que Dieu m'a dit, dit-il, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'interlocuteur est resté baba. Quelle réponse ? Ça ne fonctionne pas ? À moitié ? Ah. Merci. Ouais, une réalité. Il savait à qui il croyait. Il savait même que, quoi qu'il arrive, même s'il triomphe et qu'il revienne, Dieu est avec lui, et s'il meurt, il va avec lui. Sur la terre, Dieu est avec nous, oui. Mais au ciel, nous sommes avec lui. Et ça, c'est une chose, une réalité que nous devons penser. Nous serons avec lui dans le ciel. Et nous pourrons, comme ces hommes et ces femmes de toute tribu, de toute langue, louer, adorer et bénir le Seigneur toute l'éternité. Ça va être fatigant, hein ? Non ? L'éternité ! Imaginez ! Mais on ne se rend même pas compte que le temps s'écoule. C'est vrai comme un temps figé, hein, l'éternité. qu'est-ce que notre vie par rapport à l'éternité? Un homme disait tous les dimanches à sa femme, son épouse, « Va au temple, toi et prie pour moi. » Et pour nous deux. Ouais, bon. C'est bien, hein? On en voit pas mal de couples parfois où la femme va toute seule à l'église et le mari reste gentiment, pas à la maison, mais il est en train de faire son tiercé ou avoir une activité physique ou autre, et puis dit à sa femme, va à l'église, tu vas prier pour moi. Prie bien, hein? C'est pas la peine que j'y aille, tu pries tellement bien. Bien mieux que moi, je suis incapable. Alors il fait un rêve. Sa femme et lui meurent ensemble. Bon, ils meurent tous les deux ensemble. Oh, yeah. Pas si c'est un accident, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ils arrivent aux portes du ciel. Tous les deux ensemble. Et puis une voix dit à la femme, tu peux entrer pour vous deux. Tu peux entrer pour vous deux. Oh! Ah, ce rêve. Le dimanche suivant, ben le rêve porta du fruit. Aujourd'hui, je viens au temple avec toi. Aujourd'hui, je viens au temple avec toi. Je viens au culte avec toi. Certains ont entendu cela ce matin, vous allez pouvoir le rapporter. Hein? Et en espérant qu'il fasse un rêve. Mais qu'un rêve qui devienne une réalité. Une décision personnelle. Ce n'est pas la décision de l'autre. C'est parce que l'un des membres du couple aime Dieu et le sert que les autres vont être sauvés. Ah oui, il y a aussi dans les actes marqués, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, tu seras sauvé. Ah ! Attention. C'était dans l'un contexte et non pas pour l'éternité. Pas pour toutes les situations. C'était pour une situation particulière du geôlier. Ils avaient vu la puissance de Dieu, tous, dans la famille. Et puis, ils seraient sauvés aussi de la mort qui aurait pu être la leur si les autorités avaient su ou avaient vu que les prisonniers étaient libérés. Alors, toute la famille du geôlier y passait. C'était radical. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. C'est toujours une parole indiquée. Donné à une personne, et non pas à un groupe de personnes. Toi, suis-moi. Quand Jésus a appelé les apôtres, et particulièrement on pense à Lévi, qui était ce précepteur d'impôts, hein, qui prenait les impôts, et en gardait pas mal pour lui d'ailleurs, parce qu'il avait en somme un droit de percevoir l'impôt, mais il en gardait pour lui. Dieu dit, toi, suis-moi. C'est Matthieu. Il a suivi. Et combien on voit de textes dans les textes de l'Écriture, combien Jésus a pu dire, toi, suis-moi. Viens et vois. Dieu nous a choisis, frères et sœurs. Dès le commencement. Pour le salut. Pour regarder dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Ici, Paul rend grâce à Dieu pour les Thessaloniciens. Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Je rends continuellement grâce. Et je rends grâce ici dans l'Église pour ceux qui ont été sauvés depuis que je suis dans le ministère, que j'étais dans le ministère. Tous ceux qui sont passés, que j'ai vus. Oh, il y en a plus de 100 hein, et au-delà. J'en ai vu combien qui sont venus à Christ. Et je bénis Dieu de ce que ceux-là ont reçu Dieu dans l'Église, dans l'Assemblée, qui ont entendu la voix de Dieu, pas la mienne, mais la voix de Dieu, et se sont donnés. Je rends grâce à ceux-là. Je sais aussi que d'autres ont abandonné. Mais il y a toujours possibilité de retour. Parce que Dieu ne met pas dehors celui qui s'approche de lui. Et je veux croire que pour le salut de ceux qui se sont égarés, il y a encore une porte qui est ouverte, encore une main qui est tendue. Dieu tend la main. Dieu tend la main. Et ici, il est marqué que par la sanctification de l'esprit, le salut par la sanctification de l'esprit. Avec un grand E. Saint-Esprit habitant en nous et qui nous purifie, qui nous lave, qui nous rappelle ce que nous sommes et qui nous donne de réaliser que nous avons des choses encore à changer dans notre vie. Nous avons une marche. Nous n'avons pas atteint le but. Mais Dieu veut pour nous que cela se fasse. Et aussi, la foi en la vérité. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens discutaillent sur l'Écriture et la mettent même en doute. Des morceaux qui sont bien, mais d'autres, alors attention, ceux-là, il faudrait les enlever. À la limite, on ferait d'une Bible une petite dentelle. Hein, avec peu de fils et beaucoup trop. On enlèverait tout ce qui ne nous plaît pas. On garderait ce qui lui. Et puis surtout ce qui peut juger les autres. Hein. Oh là là. On a tendance à dire, regarde-le comment il vit celui-là. Hein. Regarde son attitude. C'est pas possible, il est chrétien, lui. Hein. C'est pas possible. Mais la paille et la poutre, vous avez entendu parler? La paille et la poutre. Combien de fois, oui, avons-nous une poutre dans l'œil? Parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on est soi-même. Le Saint-Esprit veut nous sanctifier, nous purifier. Nous amener à nous repentir des choses que nous pouvons encore faire aujourd'hui et qui sont contraires à l'Écriture. On ne veut pas les voir, mais elles sont là. Il va nous le montrer. Il va nous le révéler. Demandez-le. Certains vont dire, ouais, demandez à Dieu de montrer mes fautes. Non, je préfère quand même que moi je les vois. Et je m'en débarrasse, mais souvent, on est des aveugles sur notre propre position. Louons le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. C'est lui qui a racheté chacun d'entre nous de la manière de vivre qui était ancienne, mauvaise. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Luttons contre le péché. Et à travers les victoires qui s'opèrent dans notre vie, nous louons l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous donne de vivre pleinement dans la puissance du Saint-Esprit. Il dit, mais est-ce que j'ai bien le Saint-Esprit? Ça, c'est une grande question aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que c'est que recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que de vivre dans l'Esprit? Est-ce que c'est une doctrine, simplement, ou est-ce une réalité pour chacun de nous? Si nous avons été convaincus de péché, c'est que le Saint-Esprit nous a convaincus. C'est qu'il est venu en nous et nous a parlé. Il nous a montré ce que nous étions. Bon, on va parler, bien sûr, après, le Saint-Esprit, c'est tous les dons, hein, oui. Mais c'est aussi le fruit, frères et sœurs. Moi, je préfère voir les fruits dans la vie de quelqu'un que de voir des dons qui sont, en somme, gaspillés, mal utilisés, et souvent utilisés pour sa propre gloire, et non pas pour le service. Et si je vois les gens, la joie, la patience, la maîtrise de soi, l'amour, si je vois, alors je me réjouis. Plutôt que d'entendre une prophétie qui peut être donné par quelqu'un qui n'est pas encore consacré. Dieu veut nous donner d'être ceux qui louent et qui adorent le Seigneur, lui seul. Je ne vais pas être long ce matin, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que vous reteniez ce matin que nous avons besoin de louer l'Éternel parce qu'il nous a sauvés. Non pas pour ce qu'il nous a donné. Non pas parce qu'on a reçu de lui des bénédictions qu'on a reçues. Oui, il y a des actions de grâce. Mais louer. Louer celui qui nous a donné la vie, véritablement. C'est ça le but de l'Église. L'Église, c'est fait pour louer, et donc adorer. Alors, frères et sœurs, pensons à avoir les yeux fixés sur lui et non pas sur nous-mêmes ou sur les autres. Parce que nous ne changerons pas les autres. C'est Dieu qui va les changer. C'est Dieu qui va les transformer. Et nous pourrons nous réjouir de cela. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu pour notre vie personnelle à chacun. Ce n'est pas pour une collectivité, c'est pour un. Un, pas un. Nous sommes sous le regard de Dieu. Et je dis souvent, comment ça se peut, Seigneur, qu'il y ait des millions de personnes qui te connaissent, qui t'aiment, et tu as un regard sur chacun ? Ah oui. Oui. Il nous connaît par notre nom. Il vous connaît par votre nom. Moi, je ne vous connais pas tous par votre nom. Mais j'essaie d'en connaître le maximum. Mais lui, il vous connaît tous. Pas un seul ici, parmi nous, est inconnu de Dieu. Et il veut vous donner des forces, il veut vous donner la joie pour le louer et l'adorer encore. On va prier. Merci Seigneur pour ce matin où nous pouvons ensemble élever la voix avec reconnaissance pour ce que tu as accompli dans nos vies, pour le changement que tu as opéré. Un jour, tu as parlé à nos cœurs et nous t'avons dit oui. Nous voulons encore te dire oui et te dire oui et te dire oui chaque jour de notre vie. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît. Tu vois qu'il peut y avoir ici du désespoir, ou de la crainte ou de la peur. Le jour qu'on aille à prêcher en disant « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je veux croire que, Seigneur, tu le fais ce matin encore. D'une façon puissante, ton onction est sur l'Église, ton onction est sur ton peuple. Et la révélation nous est donnée. Sois béni ce matin, Seigneur. Et je veux te louer et t'adorer pour ce que tu es. Mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur, mon Rédempteur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. 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 Amen.